France Inter.
Hola chico, buenas tardes, hasta mañana.
Hasta mañana.
C'est comme ça que se termine ma frime en espagnol, mais que commence un 18-20 spécial à Madrid. Nous sommes 6 semaines avant les élections européennes. L'Espagne, on va le voir, émerge à peine d'une séquence critique qui peut-être aura des conséquences sur le vote du 9 juin. Je vous en parle dans une grosse minute. Bonsoir Kevin Dufresne.
Bonsoir Fabienne et bonsoir à tous. À la une du 18-20 et du premier journal de la soirée, une évacuation, celle d'étudiants de la Sorbonne qui manifestaient leur soutien à la Palestine. Aujourd'hui, certains ont tenté d'installer des tentes dans les locaux. Ils dénoncent une intervention violente de la police. Quand sur la scène internationale, les Occidentaux veulent croire à une trêve prochaine à Gaza. Dans ce journal aussi, l'inquiétude de l'ONU à l'heure où l'Irak vote une loi très répressive contre les personnes LGBTQIA+. De la joie à regarder la pluie tomber dans les Pyrénées-Orientales, assoiffée depuis plus de 2 ans. Et la suite, Fabienne, c'est donc votre 18-20 spécial en direct de Madrid.
Et oui, et pour 2 heures, la suite du Tour d'Europe du 18-20 avant les élections européennes, qui nous arrête donc dans une Espagne qui vient de vivre un drôle de psychodrame avec son président du gouvernement, Pedro Sanchez, qui a laissé l'Espagne 5 jours sans savoir s'il partait ou s'il restait. Ensemble, nous verrons si et en quoi la politique intérieure espagnole, qui a frôlé le coup de grisou, transforme le scrutin européen en un véritable référendum. Il y a d'autres élections avant, des régionales le 12 mai en Catalogne. Elles comptent aussi énormément et elles parlent d'Europe. Évidemment, pendant ces 2 heures, nous parlerons de Vox, le parti d'extrême droite espagnole. Nous parlerons sécheresse également. Nous parlerons féminisme dans la société espagnole. Beaucoup à dire dans cette Espagne en plein tumulte, mais on a 2 vraies heures pour en faire le tour. A tout de suite, Kevin.
France Inter. Une proposition sur la table, des appels à saisir l'opportunité et l'attente d'une réponse pour une trêve dans la bande de Gaza. Voilà les enjeux ce soir, alors qu'une réunion est prévue au Caire entre l'Égypte, le Qatar, pays médiateur, et les représentants du Hamas, qui doit se prononcer sur la proposition négociée entre l'Égypte et Israël. Un cessez-le-feu de 40 jours, c'est ce que dit ce soir le ministre britannique des Affaires étrangères David Cameron, avec la libération de milliers de prisonniers palestiniens en échange du retour des otages israéliens retenus à Gaza depuis les attaques terroristes du 7 octobre en Israël. Et j'espère que le Hamas prendra la bonne décision, dit de son côté Anthony Blinken ce soir, le chef de la diplomatie américaine. Le conflit au Proche-Orient, source de nouveaux remous dans une université française cet après-midi. Après Sciences Po, vendredi, une autre institution parisienne, la Sorbonne. Quelques dizaines d'étudiants mobilisés pour la cause palestinienne ont tenté d'occuper le bâtiment avant d'être évacué par la police cet après-midi, quand d'autres ont manifesté devant les portes. Sur place pour France Inter, Robin Schmitt.
Sous les fenêtres de la Sorbonne, une quarantaine de manifestants secouent un drapeau palestinien de 20 mètres de long. Alexandrine est l'une d'entre eux. Elle est étudiante à la Sorbonne et membre du syndicat Union étudiante.
On se mobilise, on occupe la Sorbonne pour demander un cessez-le-feu et la paix pour Gaza.
Mais la mobilisation a du mal à prendre. Les étudiants qui n'ont pas pu aller en cours grossissent les rangs. Ils assistent à la mobilisation depuis le trottoir et soutiennent le mouvement.
On ne peut pas rester indifférent. Quel que soit le point de vue sur la question, tout le monde y pense, tout le monde y a pensé.
On est absolument d'accord avec le blocage, c'est des idées qu'on partage.
Dès 13h, les forces de l'ordre arrivent sur place, en même temps que plusieurs députés de la France insoumise. Louis Boyard notamment s'interpose entre les policiers et les manifestants et prend la parole.
Ceux qui ont décidé de ne pas rester silencieux, ceux qui ont décidé de ne pas rester sur leur canapé, eh bien, je pense que l'honneur de la France, il est ici.
À 15h, les étudiants confinés dans le bâtiment sont exfiltrés. Ils rejoignent ensuite se mobiliser devant l'université. Yasmine était à l'intérieur de la Sorbonne.
On a été sortis en fait de force. On était plus de 60 élèves à rester pour occuper. Et on a été nassés juste devant la sortie de la Sorbonne.
Les partiels prévus aujourd'hui à la Sorbonne ont tous été annulés et reportés.
Un reportage signé Robin Schmitt. Et dans un tweet ce soir, la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, annonce que la région suspend tous ses financements à Sciences Po, la Sorbonne, où Emmanuel Macron a la semaine dernière parlé d'Europe, un discours en pleine campagne, puisque les élections européennes ont lieu le 9 juin. Certains y ont vu une entrée en campagne du président de la République. Et ce soir, on apprend que c'est son Premier ministre qui accepte d'y participer pleinement. Bonsoir Marie Mollet.
Bonsoir.
Gabriel Attal est prêt à débattre avec le président du Rassemblement National, Jordan Bardella, qui est tête de liste du RN pour ces élections.
Oui, et ce n'est pas trop tôt, souffle un député Renaissance. Gabriel Attal veut enfin débattre avec Jordan Bardella, il l'a dit lui-même ce matin, lors d'une réunion interne avec deux de ses ministres, même si pour l'instant rien n'est fixé, ni la date, ni la chaîne. Jusqu'ici pourtant, Gabriel Attal s'y refusait, pas du niveau d'un Premier ministre, estimait-il. Lui aurait préféré un face-à-face avec Marine Le Pen. Alors pourquoi a-t-il changé d'avis? Est-ce parce que Renaissance n'en finit plus de plonger dans les sondages? Ou est-ce parce que dans son camp, certains l'accusaient de se planquer, je cite, dans cette campagne, par peur d'avoir à assumer une déconfiture au soir du 9 juin? Pas de commentaire côté Matignon sur les envies de Gabriel Attal, celui qu'on présentait comme l'arme anti-RN à sa nomination. Non, c'est un pistolet à eau défectueux, raillait Jordan Bardella il y a quelques jours. La tête de liste RN souhaitait tant ce duel pour espérer étoffer sa stature personnelle.
Marie Mollet, service politique de France Inter. Les élections européennes, on en reparle dans le 18-20 spécial depuis Madrid, juste après ce journal, où Pedro Sanchez est toujours aux affaires. Il s'est moqué des Espagnols, estime le chef de l'opposition de droite, Alberto Feijóo, ce soir. Réaction après la décision du chef du gouvernement socialiste de rester en poste, après avoir dit réfléchir à démissionner il y a 5 jours suite à une plainte pour corruption contre sa femme. L'actualité à l'étranger ce soir, c'est aussi l'ONU qui se dit, je cite, alarmée après l'adoption d'une loi anti-LGBTQIA+ en Irak qui criminalise les relations homosexuelles et les transitions de genre. Si la peine de mort a été retirée du texte, il prévoit toujours jusqu'à 15 ans de prison, Valérie Crovin.
Oui, 15 ans de prison, c'est ce que prévoit cette loi censée protéger la société irakienne de la dépravation morale et des appels à l'homosexualité qui ont envahi le monde selon les termes du texte. Sont désormais proscrites les relations homosexuelles et toute organisation qui en ferait la promotion, mais aussi tout comportement jugé efféminé pour un homme, passible de 3 ans de prison. Harcelés au quotidien, quand ils ne sont pas enlevés, torturés ou violés par des groupes armés, les membres de la communauté LGBT+ sont la cible de discrimination dans ce pays conservateur qu'est l'Irak. L'année dernière, des drapeaux arc-en-ciel avaient été brûlés lors de manifestations organisées par les factions musulmanes chiites. Outre l'Union européenne et l'ONU, le département d'État américain a fait part de son inquiétude face à un texte qui, selon son porte-parole, sape les efforts de réforme économique et politique du gouvernement irakien 2 semaines après la visite du Premier ministre Al-Soudani à Washington, une visite au cours de laquelle il s'est bien gardé d'évoquer le contenu de cette loi.
Valérie Crovat de la rédaction internationale de France Inter. Voilà un sujet qui préoccupe des deux côtés de la frontière franco-espagnole. La sécheresse persistante depuis plus de 2 ans. Ce soir, à Barcelone comme à Perpignan, il pleut dans les Pyrénées-Orientales. C'est en continu depuis hier matin, des millimètres plus qu'attendu, même si évidemment, ils ne suffiront pas à recharger les nappes phréatiques au plus bas. Ça soulage un peu les habitants, comme ici à Argelès-sur-Mer, au bord du fleuve La Massane.
On est bien content qu'elle se remplisse.
Ça faisait un moment que vous ne l'aviez pas vue comme
ouais.
Ça
ouais, ouais. Je croyais au moins 2 ans.
On va dire que ça fait du bien, ouais. Mais pas que pour les plantes, hein, parce que pour tout. Parce que là, c'est vrai que les restrictions et tout ça, ça va être chaud.
Ben, ça fait 3 ans que je suis sur Argelès et ben, j'ai jamais vu la Massane à ce niveau-là. Bon, il n'y a rien d'inquiétant, mais c'est même encourageant. Ça nous manquait tellement que bon, c'est vrai qu'on est content de recevoir ces 4 gouttes d'eau, enfin 4, même 8. Hein. Qui sont quand même bénéfiques pour la nature, les nappes phréatiques et tout ce qui s'ensuit.
Mais vous restez quand même conscient que ça ne réglera pas le problème de fond?
Ah, complètement, non. Non, complètement, non. Le problème de fond, on a un manque d'eau, il n'y a pas d'irrigation. C'est un entracte, on attend la suite.
Voilà, témoignage au micro de Mélanie Juvet, France Bleu, Roussillon. Les prévisions météo complètes à la fin de ce journal avec Élodie Calac. Gérard Depardieu est en garde à vue ce soir. L'acteur convoqué par les enquêteurs après 2 plaintes pour agression sexuelle déposées par 2 femmes. À chaque fois, les faits dénoncés se seraient déroulés sur un tournage, l'un en 2014, d'autres en 2021. Gérard Depardieu, qui nie toutes ces accusations, est déjà mis en examen pour viol dans une autre affaire. Lui est au tribunal de Paris depuis ce matin. Arnaud Lagardère est entendu dans une affaire d'abus de biens sociaux. Le PDG du groupe qui porte son nom est soupçonné d'avoir utilisé l'argent des comptes de ses sociétés pour financer son train de vie personnel. Bonsoir Sarah Guibaudot.
Bonsoir.
Il risque une mise en examen ce soir.
Et ce serait sans doute l'un des derniers actes d'une enquête démarrée il y a 3 ans dans laquelle 2 commissaires aux comptes sont déjà mis en examen pour complicité d'abus de biens sociaux. Pour Arnaud Lagardère, les ennuis ont commencé quand un fonds d'investissement Amber Capital a mis son nez en 2018 dans l'entreprise dont il contestait la gestion et la gouvernance. Amber Capital lance une alerte sur l'utilisation des fonds de la holding et porte plainte. Arnaud Lagardère, très endetté, refusait alors de publier les comptes de sa société personnelle. On était au cœur d'une bataille boursière qui a vu Amber s'allier à Bolloré pour prendre le contrôle d'un groupe peu à peu démantelé par l'héritier de Jean-Luc Lagardère. Parvenu à ses fins, le fonds activiste s'est retiré de la procédure pénale, mais le parquet national financier a ouvert une information judiciaire, soupçonnant donc Arnaud Lagardère d'avoir fait prendre en charge par ses sociétés des dépenses pour des immeubles qu'il occupe, une créance successorale et des avances sur ses comptes courants. Il est question de plusieurs dizaines de millions d'euros.
Sarah Guibaudot, chef du service police-justice de France Inter. Et l'on en vient maintenant à un paradoxe français. Moins de 5% des personnes atteintes de cancer participent à des essais cliniques pour aider la recherche, alors que près de 3/4 d'entre elles seraient prêtes à le faire. La plupart du temps, c'est un problème d'information. Les patients ne sont pas au courant et c'est ce qu'essaye de corriger Clinéo, une start-up française qui oriente les malades vers les essais les plus pertinents pour eux et ce, Victor Delande, grâce à de l'intelligence artificielle.
En 2017, Elodie apprend qu'elle est malade. Un cancer du sein, triple négatif, la forme la plus agressive. Des années de traitement très lourd, une accalmie, puis une récidive. Elodie veut tester des traitements innovants et l'année dernière, elle intègre un essai clinique grâce à cette plateforme. Pour elle, cette start-up répond aux besoins de connaissance des patients sur leur maladie.
Aujourd'hui, on s'intéresse beaucoup plus à notre maladie et en fait, il y a un lien entre l'oncologue et le malade, ce qui n'était pas forcément le cas avant. C'est bien qu'on puisse, en tant que patient, avoir accès à une plateforme comme Clinéo qui nous montre tous les futurs traitements, alors qu'avant, je pense que ça n'existait pas en fait.
En quelques clics seulement, les patients trouvent l'essai clinique le plus proche de chez eux. Pour Arnaud Bail, oncologue médical à Gustave Roussy et cofondateur de Clinéo, cette plateforme a un double intérêt.
C'est potentiellement l'accès à une innovation thérapeutique qui ne sera accessible pour tous les patients que dans plusieurs années si elle est validée. Et il y a aussi un bénéfice collectif parce que effectivement, pour que la recherche avance, toute molécule passe par une phase d'essai clinique. Et donc voilà, en participant à un essai clinique, un patient permet de faire progresser les connaissances scientifiques sur le domaine.
Avec sa plateforme, cette start-up entend aussi faire baisser une statistique. 20% des essais cliniques en cancérologie échouent en raison du manque de participants.
Victor Delande, pas de vote mais des passes d'armes entre le gouvernement et les oppositions à l'Assemblée nationale où les députés débattent en ce moment du sujet des finances publiques alors que Bercy cherche des milliards d'euros d'économies pour 2024 en ouverture. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire a rappelé ses objectifs dont la simplification, la croissance et le plein emploi ou encore des réformes de structure comme celle de l'assurance chômage. Le travail et les travailleurs en France, à quoi ressemble-t-il? Eh bien, c'est une des questions auxquelles l'INSEE tente de répondre régulièrement. Ce soir, il présente son portrait des professions sur des données de 2022. Une photo qui confirme à nouveau la diminution de la part des agriculteurs et des ouvriers quand celle des cadres a triplé en 40 ans ou encore que les 3/4 des employés sont des femmes et souvent à temps partiel. Bonsoir Agnès Soubiran.
Bonsoir.
Et ces statistiques nous en apprennent aussi sur le travail en horaire décalé et le week-end.
Alors les plus concernés et de façon assez évidente sont les agriculteurs. 9 sur 10 travaillent le week-end, 1 sur 2 le soir et 1 sur 5 la nuit. Pour les artisans et commerçants, près d'1 sur 2 travaillent le soir, c'est-à-dire entre 20h et minuit et 70% le samedi, tout comme leurs employés femmes. 41% des cadres disent aussi travailler le soir, les plus nombreux étant les enseignants. Près de 60% privilégient l'après-dîner pour corriger les copies et préparer les cours. Quant aux ouvriers, ils travaillent moins le week-end mais plus la nuit. Un conducteur routier sur 4 par exemple. Et ce qui ressort d'une autre enquête de la DARES, la direction des études du ministère du Travail, c'est que les salariés qui travaillent en horaire atypique cumulent les inconvénients. Ils sont soumis à plus de contrôles avec l'utilisation notamment de pointeuses. Ils ont aussi moins souvent 2 jours de congé congés consécutifs et ont parfois des journées de travail morcelées. Ces salariés doivent aussi faire preuve de plus de souplesse. 32% travaillent souvent au-delà de l'horaire prévu. Et enfin, 57% sont appelés pour des besoins professionnels en dehors de leurs horaires de travail, contre 33% pour ceux qui ont des horaires classiques.
Agnès Soubiran, service économie et sociale de France Inter. Paris, on revient. Et pour deux matchs, voilà le message ce soir en français dans le texte de la NBA, la Ligue nord-américaine de basket, puisque les San Antonio Spurs de Victor Wembanyama viendront jouer deux matchs en France en janvier prochain, de match à l'Accor Hotel Arena de Bercy. Allez, avant de filer à Madrid, le temps pour ce soir et demain.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules électriques, hybrides et thermiques. Euromaster, toute notre expertise pour les pros au service des particuliers.
Et bonsoir Elodie Calac.
Bonsoir à tous.
Encore des pluies demain.
Oui, on va retrouver notre axe pluvieux de l'Occitanie vers le centre Val-de-Loire, la Bourgogne et la frontière belge avec des pluies soutenues du Languedoc vers les Cévennes le matin. L'après-midi, des pluies parfois accompagnées d'orages du Languedoc et de la vallée du Rhône vers la Bourgogne avec de la grêle possible. Quelques orages pourront remonter également vers la région parisienne et le nord de la Seine. Sur la Bretagne, de bonnes pluies qui s'invite pour demain avec un vent de sud. Entre les deux, on aura de belles éclaircies de la Nouvelle-Aquitaine vers la Touraine et la Normandie. Et puis du nord-est à la Provence, pas mal de nuages, du soleil quand même pour l'Alsace, de la pluie sur les Alpes l'après-midi et ça tournera à l'orage sur le nord-est.
Et des températures en hausse?
Avec 5 à 14 degrés le matin, l'après-midi souvent 17 à 22 degrés, seulement 13 degrés à Brest sous la pluie, mais 26 degrés en plaine d'Alsace sous le soleil.
Merci Elodie Calac de Météo France.